C'est Jérémy. Petit message avant de découvrir votre épisode du jour, pour simplement vous demander un petit coup de pouce en quelque sorte. Je viens de prendre mon téléphone et j'ai remarqué comme quoi je suis uniquement à 12 avis d'atteindre les 200 évaluations sur Apple Podcast. Donc si jamais vous possédez un appareil de chez Apple, prenez quelques petites minutes, si jamais le cœur vous en dit, pour me laisser un avis, idéalement 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, pour m'aider à mieux faire référencer mon podcast. Sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode.
Allez, c'est parti, nouveau podcast. Alors, dans ce nouveau podcast, de quoi allons-nous parler ? Nous allons parler de 3 outils qui vont te permettre de booster ta mémoire dès la fin de ton écoute. Dès la fin du podcast, tu auras une mémoire supérieure comparée au début du podcast. C'est aussi simple que ça. Si tu ne crois pas, tant mieux. Sois sceptique, teste et vérifie par toi-même chacun des outils que je vais te présenter pour valider leur intérêt et leurs bénéfices. Allez, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Jérémy Coron, je suis expert en compétences holistiques et mon but, il est simple, aider les dirigeants et les cadres à optimiser leurs compétences pour surperformer dans leur travail. C'est aussi simple que ça. Avant de commencer réellement le podcast du jour, je tiens à te rappeler que si tu veux soutenir mon travail, la meilleure et la plus simple des actions que tu puisses mettre en place dès maintenant, dans la seconde qui suit, c'est de me laisser une note ainsi qu'un avis positif sur la plateforme d'écoute de podcast que tu utilises au quotidien. Ensuite, deuxième information, je t'ai préparé un petit guide 100% gratuit dans lequel je résume les 3 outils que je vais te présenter dans cet épisode. Alors pourquoi compléter un format oral qui est le podcast par un format écrit ? La raison, elle est simple. En effet, le format écrit me permet d'aller encore plus loin que le podcast, de rentrer plus en détail dans les explications, d'ajouter des visuels et des exercices pour t'aider dans la mise en œuvre, dans la mise en application des différents outils que je vais te présenter. Donc, si réellement tu as pris conscience de l'importance de, comment dire, d'augmenter sa mémoire à l'heure actuelle pour surperformer au travail, je ne peux que t'inviter à télécharger ce petit guide 100% gratuit. Pour ça, tu as un petit lien en description, tu me laisses ton prénom, ton email et je te l'envoie immédiatement. Et enfin, dernier élément à évoquer avant de commencer le podcast, c'est pour t'informer, pour te rappeler plutôt que la semaine prochaine sort notre traditionnel épisode questions-réponses. Donc, si tu as des questions sur la mémoire, sur son fonctionnement, sur des outils ou autres, n'hésite pas, sens-toi libre de me les poser. Tu as également là un lien en description pour le faire. Ça t'envoie sur un petit formulaire très simple. Tu mets ta question, tu me l'envoies, je la reçois, j'y réponds la semaine prochaine. Allez, maintenant, on attaque les choses concrètes, on passe aux choses sérieuses. Et commençons par resituer, voilà c'est mieux, où nous sommes arrêtés la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, je t'avais laissé sur le fait que la société actuelle, société de la surinformation pour rappel, dans laquelle nous vivons, n'est pas aussi bénéfique, n'est pas aussi avantageuse pour nous qu'elle n'y paraît de prime abord. En effet, au premier regard, le fait d'accéder à tous les savoirs du monde et le fait d'avoir la chance d'être constamment informé du moindre événement semble complètement génial, semble complètement même idyllique en quelque sorte. Mais quand on prend le temps de regarder un peu plus près cet élément-là dans sa globalité, comme on l'a fait dans le podcast précédent, on remarque que ça détruit littéralement nos capacités de mémorisation car on n'utilise plus du tout notre mémoire actuellement. Et donc, par conséquence, ça détruit également nos capacités d'apprentissage et forcément, de semaine en semaine, de mois en mois, à force de ne plus utiliser son cerveau, plutôt sa capacité de mémoire, ça va justement impacter notre cerveau. Ça va diminuer le potentiel de notre cerveau. Ça va diminuer la performance de notre cerveau. Et ça va nous impacter au quotidien. Et justement, la semaine dernière, je t'ai également présenté les conséquences qui découlaient de ce phénomène-là. Ces conséquences sont au nombre de 4. Je vais te les résumer encore une fois avant de commencer. La première conséquence est sur nos capacités de travail. Aujourd'hui, réfléchir, rechercher une information, croiser des éléments parfois un peu éloignés, nous fait mal à la tête. Ça nous épuise sur le plan cognitif, ça vide notre énergie. En tout cas, ça concerne la majeure partie des personnes. Et pour le constater par soi-même, il suffit de se placer devant un problème assez complexe. Et on va voir à quel point on a du mal à rester concentré, à quel point ça nous fait mal à la tête de faire ce problème-là. En effet, pourquoi ça nous fait mal à la tête ? Car toutes les capacités liées à la réflexion, à la recherche d'informations et au croisement des données sont directement liées à notre capacité de mémorisation. Apprendre à bien mémoriser, à mémoriser rapidement, à mémoriser vite des informations permet de renforcer les connexions entre les neurones. Et donc forcément, qui dit de meilleures connexions, dit un influx nerveux plus rapide dans le cerveau, et qui dit un influx nerveux plus rapide dans le cerveau, dit une meilleure recherche d'informations là où on est censé les avoir stockées dans notre esprit, dans notre mémoire. Voilà, ça c'est pour le premier effet négatif, la première conséquence négative. Ensuite, deuxième conséquence, une conséquence sur notre confiance en nous. Notre perte de mémoire actuelle, notre sous-utilisation de la mémoire actuellement, nous fait perdre confiance en nous. Nous fait perdre confiance dans les capacités de notre mémoire. Et même de façon plus large, et j'aimerais aller vraiment sur cette vision globale-là, nous fait perdre de notre confiance en nos compétences. Et ça, forcément, en termes de performance professionnelle, ça pose problème. Ça pose problème à plusieurs niveaux, notamment sur le fait d'évoluer, de vouloir changer de poste. Comment envisager le fait de changer de poste, de progresser sur l'échelle sociale sans avoir confiance en soi, sans avoir confiance en ses compétences, sans avoir confiance en sa mémoire? Tout ça est impossible. Ensuite, troisième aspect négatif sur notre quotidien cette fois-ci. Là, c'est le fait de perdre du temps. C'est le fait de perdre de l'argent et d'avoir des prises de tête avec d'autres personnes. Alors en termes de perte de temps et de perte d'argent, je pense notamment au fait de perdre ses clés. Qui n'a jamais perdu ses clés parmi vous qui m'écoutez? On perd ses clés, on les oublie, parfois on les retrouve, ça prend des fois 2 minutes, des fois 30 secondes, des fois 1 heure, ça peut arriver. Mais des fois, on les perd complètement. Et là, il faut faire appel à un serrurier. Généralement, c'est le soir à 22h, donc ça coûte très cher et donc on perd du temps, de l'argent. Et au niveau des prises de tête, c'est simple, on oublie un anniversaire, on oublie un événement particulier, forcément une prise de tête en découle, c'est logique. Et enfin, quatrième et dernier élément négatif, c'est directement lié à notre capacité d'apprentissage. Aujourd'hui, notre capacité à mémoriser des informations, à les retenir et donc à apprendre des nouveaux éléments décline de jour en jour. Et ça, c'est assez paradoxal. Parce que d'une part, on a accès à de plus en plus de formations, on suit des cours, on suit des podcasts, on lit des livres, on suit des conférences. Tout ce qu'on découvre est complètement génial, c'est parfait. On se dit ça sur le coup après avoir suivi la formation en question ou lu le livre en question, mais après 24 heures passées, on a déjà oublié 60% de ces super informations et une semaine après, je t'en parle même pas, on en retient à peine 30%. Alors ces chiffres de 60 et de 30%, je ne les sors pas de mon chapeau, je ne le dis pas au hasard, je t'en parle juste après dans le podcast. Alors, au regard de ce constat-là, quand on est convaincu, comme toi et comme moi, que plus on apprend des éléments, plus on devient compétent, alors il est temps de changer les choses. Il est temps de booster sa mémoire. Il est temps pour nous d'arrêter de perdre notre temps et de perdre notre argent au quotidien pour ne retirer que peu de bénéfices de tous les cours qu'on suit, de toutes les formations qu'on suit, de tous les livres qu'on lit. Et également, il est temps de perdre du temps et de l'argent au travail à ne pas réussir à progresser à cause d'un manque potentiel de mémoire qui va directement impacter toutes les autres compétences que nous possédons au quotidien. Tout ça, ça te freine dans ton quotidien. Crois-moi, ça te freine dans ton développement. Moi, ça m'a freiné durant des années et des années avant que j'en prenne conscience. Et cette prise de conscience, comme pour le sommeil, elle est très compliquée à avoir. En effet, la perte de mémoire est très progressive. On ne se rend pas compte qu'on perd de la mémoire. Et donc, on ne se rend pas compte jour après jour que ça affaiblit toutes nos compétences. C'est uniquement quand on maîtrise les bons outils, les bonnes méthodes, les bons protocoles que l'on peut réellement retrouver une mémoire efficace, une mémoire supérieure à 99% de la population. Et c'est à partir de là, quand on compare le nouveau soi du soi précédent, qu'on voit le gap qu'il y a et qu'on voit surtout le temps qu'on a perdu à ne pas entretenir sa mémoire. Imagine-toi, tout simplement, tout ce que tu pourrais faire dès maintenant si tu retenais chaque information clé, chaque connaissance dont tu as besoin, chaque méthode, chaque outil, chaque protocole qui te ferait gagner en expertise, qui te ferait gagner en compétences, en expérience et en temps au quotidien. Imagine-toi la différence que ça ferait entre toi aujourd'hui et le toi d'hier. Et surtout, imagine-toi la différence que ça ferait entre toi et les autres personnes qui t'entourent. Imagine-toi toutes les prises de tête que tu éviterais au quotidien, toutes les frustrations auxquelles tu échapperais et tout le temps que tu gagnerais à nouveau, jour après jour. À partir de là, je me suis un peu emballé, j'en suis désolé, mais c'est un sujet qui me tient réellement à cœur comme tous les sujets que j'aborde sur Soskiller. Donc à partir de là, ne penses-tu pas qu'il serait plus facile d'évoluer, de changer de poste, de manager plus efficacement ton équipe ou de gérer plus efficacement ton entreprise en boostant ta mémoire? Ok, tout ça c'est bien beau, ce constat il est bien beau, ce discours un peu motivationnel que je viens de te faire il est bien beau, super. Mais concrètement, comment ça marche? Comment on fait pour booster sa mémoire? Comment on fait pour hacker sa mémoire? Comment on fait pour développer sa mémoire? Car moi, effectivement, j'ai beau essayer de retenir des informations, de les répéter, ça ne fonctionne pas, j'oublie tout comme tu dis. Donc, comment faire? Cette question, j'ai commencé à la soulever dans le podcast précédent, si tu t'en souviens bien. Et la solution, elle est simple, en quelque sorte, bien évidemment, elle se passe en deux étapes. Il faut, première étape, que tu réapprennes à apprendre, puis que tu réapprennes à mémoriser. En effet, on ne t'a jamais réellement appris à apprendre et on ne t'a jamais réellement appris à mémoriser. Personne ne t'en a jamais parlé, personne ne t'en a jamais réellement fait, comment dire, une démonstration, personne ne te l'a jamais partagé. Et la preuve la plus flagrante, c'est l'école. À l'école, on t'a appris quoi ? On t'a appris à faire du par cœur. Du par cœur, du par cœur et du par cœur. Ok, le par cœur, c'est bien pour retenir une poésie. Ok, le par cœur, c'est bien pour retenir des règles grammaticales. Ok, le par cœur, c'est bien pour retenir des multiplications, des additions, des soustractions, des divisions. Ok, c'est bien pour ça. Mais le par cœur ne fonctionne pas pour tout le reste. Et la preuve, encore une fois, que j'ai à t'avancer, ce sont les contrôles que tu as faits ou les évaluations que tu as terminées, peu importe. Dès que tu faisais un contrôle, dès que tu terminais une évaluation, tu peux être sûr que dans les heures qui suivaient, et encore pire dans les jours qui suivaient et dans les semaines qui suivaient, tu avais déjà complètement oublié tout ce que tu avais appris. Et ça, encore une fois, c'est logique. Et encore une fois, une preuve à ajouter à ça, si jamais tu retenais tout efficacement, et c'est possible grâce à certaines méthodes que nous allons voir ensemble, si tu retenais tout efficacement, tu n'aurais pas besoin de réviser pour des contrôles de fin d'année. En effet, tout le savoir que tu aurais acquis durant l'année, au niveau scolaire bien évidemment, on revient sur cette notion de scolarité, tout ce que tu aurais appris au cours de l'année serait ancré dans ton esprit et tu pourrais directement le réactiver à ta guise, à n'importe quel moment. Ça, c'est possible de le faire, mais ça ne passe pas par le par cœur. Donc, autrement dit, si l'école savait apprendre à apprendre et apprendre à mieux mémoriser, ça se saurait. Et ça serait bien justement qu'elle sache le faire par rapport à nos différents enfants à droite et à gauche qui ont besoin d'apprendre à apprendre et qui ont besoin d'apprendre à mémoriser. Du coup, tout ça pour te dire que s'il ne faut pas regarder du côté de l'école, où faut-il regarder? Eh bien, comme d'habitude, en tout cas, comme d'habitude chez moi, il faut regarder du côté des neurosciences et du côté du cerveau. C'est là que tout se passe. C'est le plus bel outil que nous avons à disposition. C'est l'outil le plus perfectionné qu'il existe à travers le monde. Même votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, peu importe, une navette spatiale n'est pas aussi développée que votre cerveau. Ça, prenez-en conscience. Et le cerveau, plus on en prend soin, plus on le travaille, plus on l'améliore, plus on va le développer, plus il sera performant. Et plus justement ce travail-là sera facilité par les nouvelles performances de notre cerveau. Le cerveau fonctionne réellement comme étant un élément qui produit un cercle vertueux. Plus on l'améliore, plus il s'auto-améliore de son côté. Alors, la mémoire au niveau du cerveau, comment elle fonctionne? Elle fonctionne sur trois principes principaux. Le principe de répétition, le principe de consolidation et surtout le principe d'association. Voilà, comme ça au moins tu l'as bien compris. Si tu veux développer ta mémoire, si tu veux apprendre à retenir le contenu d'une réunion sans prendre de notes par exemple, si tu veux mémoriser une dizaine de numéros de téléphone à un salon professionnel alors que ton téléphone à toi n'a plus de batterie, si tu veux, autre exemple, retenir une procédure très complexe en quelques minutes, ou encore si tu veux animer toute une réunion importante, sans notes, sans support, alors tu vas devoir passer par la mise en application de ces trois principes. Ils sont, à eux trois, en fait, la clé de la mémorisation. Tu ne peux pas déroger par le passage de ces principes-là pour mémoriser efficacement. Et ces principes, la façon la plus simple pour les apprendre et pour être familier avec eux, ce n'est pas de faire du par cœur encore une fois. Ça, on le laisse à l'école. La meilleure, et d'ailleurs la seule et unique solution viable, est la solution de la technique du bricoleur. Alors, la technique du bricoleur, qu'est-ce que c'est? Moi, personnellement, je ne suis pas du tout un bricoleur, mais pourtant, cette technique fonctionne très bien. Cette technique consiste à te constituer ta propre boîte à outils, ta propre boîte à outils de la mémoire, une boîte où tu pourras stocker tous les outils, que tu auras à disposition, que tu auras appris, que je vais t'apprendre, et ensuite, tu pourras piocher le bon outil pour la bonne situation. Une boîte que tu pourras transporter facilement, en tout lieu, en tout temps, et qui sera directement stockée dans ta plus belle des machines qu'il puisse exister, ton cerveau et ta mémoire. Et c'est ça qui est d'ailleurs génial avec cette boîte à outils-là. Tu vas te constituer ta propre boîte à outils pour mieux mémoriser, et en boostant ta mémoire, tu vas d'autant plus ancrer cette boîte à outils dans ton cerveau. À nouveau, on est sur une notion de cercle vertueux qui va se mettre en place. Et ça, c'est une puissance et une force que tu ne peux même pas imaginer. Plus tu vas utiliser ta boîte à outils, plus tu vas te l'approprier. Certes, le démarrage va être compliqué, il va être facile, je ne vais pas te mentir, ça va demander un certain effort au début, comme pour tout d'ailleurs, mais la courbe de maîtrise, la courbe de progression ne va pas être linéaire par la suite, elle va être exponentielle. En fait, c'est comme une voiture. Une voiture, le plus compliqué, c'est le démarrage. Tu accélères, tu passes tes rapports, voilà. Ça, c'est assez compliqué en soi pour la voiture. Mais dès que la voiture est lancée sur l'autoroute, par exemple, ça ne demande aucun effort. La voiture roule tranquillement et c'est là qu'elle consomme le moins d'énergie. La mémoire, c'est pareil. Tes outils, au début, vont te demander un peu de temps pour te les approprier, pour les maîtriser, mais au fur et à mesure, ils vont s'auto-alimenter et ton cerveau va réellement les intégrer dans son processus de réflexion. Et ils vont faire partie de ton quotidien. Et là, comme la voiture, ça ne va te demander aucune énergie pour les mettre en application. Alors, dans ce podcast, je vais donc te donner les trois premiers outils que tu vas mettre dans ta boîte à outils qui est maintenant toute neuve, qui est toute vide. Je te l'offre, voilà, prends tes bras, je te l'attends, récupère-la, mets-la devant toi, elle est vide. Et ensemble, on va donc la compléter. Ces trois outils sont des outils de base de la mémoire. Mais je te rassure, ils sont déjà très utiles et très puissants. Après, tu as bien évidemment de nombreux autres outils plus complets, beaucoup plus puissants, qui vont s'ajouter à cette boîte-là. Ils sont pour autant, malgré le fait qu'ils soient plus compliqués et plus puissants, pour autant pas compliqués en tant que tels à intellectualiser, pas compliqués à mémoriser, pas compliqués à mettre en application. Mais bon, ça, je t'en parlerai fin du mois. On va se concentrer sur les trois outils de base dans ce podcast-là. Alors, ces outils, lesquels sont-ils ? Déjà, avant de te les présenter en détail, n'oublie pas que tu as un petit guide gratuit en description qui va résumer justement ces trois outils. Alors, quel est le premier outil que tu vas ajouter à ta boîte à outils de la mémoire ? Ce premier outil est un outil d'aide à la répétition. Avant de te le présenter, il faut déjà que je commence par t'expliquer ce qu'est le principe de répétition, sinon tu ne pourras pas comprendre tout l'intérêt de l'outil, c'est normal. Et quand on ne comprend pas, tu le sais, on n'applique pas, c'est humain, c'est comme ça, donc commençons par la base. Alors, pour te l'expliquer, il faut que je te parle de la courbe de l'oubli de Ebbinghaus. Cette courbe, elle a un but qui est très simple, c'est de comparer la vitesse à laquelle on oublie une information selon deux situations. Première situation, quand on ne fait pas la démarche de se remémorer l'information en question. Et deuxième situation, quand on fait la démarche de se la remémorer à des moments bien spécifiques. Ok, dit comme ça, j'en ai conscience, c'est assez flou, expliqué uniquement à l'oral. C'est pourquoi, encore une fois, tu auras un visuel de cette courbe-là dans ton petit guide. Alors, quand on a cette courbe sous les yeux, que remarque-t-on ? On remarque que sans rappel, on oublie 60% d'une information 24 heures après l'avoir apprise. On oublie 70% après une semaine et 80% un mois après. Je te l'avais dit, les chiffres que je t'ai évoqués en début de podcast ne viennent pas de mon chapeau, ils viennent de cette courbe-là. Maintenant, situation numéro 2. Quand on met en place des rappels espacés. Là, on continue certes d'oublier un peu d'éléments, c'est normal, le cerveau oublie naturellement, c'est obligé, mais là, on oublie que 10% des informations 24 heures après avoir appris un élément. Contre 60% sans rappel. On oublie 12% une semaine après contre 70% sans rappel et on oublie que 15% un mois après contre 80% sans rappel. Maintenant, je vais te poser une question assez simple. À ton avis, si dès demain, tu mets en place une méthode te permettant de multiplier par 7 ta capacité de mémoriser une information, à ton avis, est-ce que cela changerait ton quotidien et ta capacité de performer dans ta vie personnelle comme professionnelle ? La réponse, elle est évidente, mais je vais la dire, c'est évidemment oui. Alors justement, comment faire ? Comment mettre un tel outil au quotidien en place ? Comment ? Plutôt, quelle est la marche à suivre ? Déjà, premier point, qu'est-ce qu'un rappel ? Commençons à nouveau par la base. Je vais te l'expliquer simplement en te disant ce que n'est pas un rappel. Un rappel n'est en aucun cas la révision d'un élément ou la relecture d'un document complet. Un rappel est une simple question à se poser. Ce n'est pas de la répétition, c'est uniquement un rappel d'information. Typiquement, prenons un exemple, tu cherches à mémoriser les 5 caractéristiques du nouveau produit commercialisé par ton entreprise, car demain tu as une présentation à faire dessus, alors tu vas simplement te demander, à l'oral, quelles sont ces 5 caractéristiques. Tu vas les énumérer, idéalement à voix haute, pour stimuler ta mémoire auditive, et puis, juste après ça, tu vas valider si la réponse est bonne. C'est aussi simple que ça. Voilà ce qu'est un rappel. Ça te prend à peine 5 minutes, ce n'est pas du gavage d'informations encore une fois, mais juste un petit auto-contrôle de connaissances en quelque sorte. Après la question qui se pose, après la question du quoi, c'est la question du quand. Quand faire ces rappels ? Quand tu auras téléchargé le petit guide que je t'ai préparé encore une fois, tu verras que les rappels présents sur la courbe des Ebbinghaus sont espacés de la façon suivante. On a 10 minutes après la lecture de l'information, on a un jour après, une semaine après, un mois après et 6 mois après. À titre personnel, cette répartition ne m'a jamais convaincu, elle ne m'a jamais plu. Il y a deux raisons qui me font dire ça. La première, les neurosciences ont démontré, bien après la mise en place de cette courbe-là, qu'il faut entre 6 et 7 rappels en moyenne pour qu'une information soit mémorisée. Autrement dit, pour qu'elle passe de la mémoire à court terme, à la mémoire à moyen terme, puis à la mémoire à long terme. Parfois, ce chiffre peut bien évidemment être plus élevé selon la nature des informations que tu as à mémoriser, mais ce n'est pas le sujet ici. Dans la courbe d'Ebbinghaus, on retrouve que 5 rappels, dont un pseudo-rappel qui a lieu seulement 10 minutes après l'apprentissage. Donc, c'est complètement insuffisant selon moi et selon les neurosciences également. Ensuite, deuxième remarque qui me fait dire que cet espacement-là n'est pas le bon. La courbe d'Ebbinghaus est beaucoup trop rigide, à mon sens. En effet, elle est beaucoup trop protocolaire. Parfois, tu vas avoir des difficultés à mémoriser des informations. Parfois, tu vas avoir des facilités à mémoriser des informations. Mais dans tous les cas, que ce soit facile, que ce soit difficile, on reste sur la même séquence de rappels. Et ça, encore une fois, ça ne fonctionne pas selon moi. Donc, au regard de ces deux éléments-là, j'ai apporté moi personnellement ma petite touche personnelle pour optimiser ces rappels espacés. Alors, pour moi, le plus important à mettre en place, ce sont les 3 premiers rappels. Donc, prenons la situation suivante. Disons que tu es au jour 1. Jour 1, tu découvres un super concept que tu veux mémoriser pour t'en souvenir et pour le mettre dans ta mémoire à long terme, et surtout pour le mettre en application, car la mise en application est le plus important, et ça j'en parlerai dans le podcast dans 15 jours. Alors, le soir même, tu vas faire ton premier rappel, juste avant de dormir. Alors, pourquoi juste avant de dormir ? Car, comme ça, tu vas dire à ton cerveau que cette information-là, elle est importante, elle est plus importante que les autres. Elle doit passer en priorité dans ta salle d'attente de la mémoire. Alors, pour ce qui est de cette notion de salle d'attente de la mémoire, là, je te renvoie à nouveau vers le podcast précédent. Ta nuit va passer, tu vas dormir, ce que j'espère en tout cas. Tu vas subir les effets du sommeil NREM et REM, dont je parle en détail dans ma formation PSO. Et le lendemain, tu vas te réveiller naturellement. Et dès le réveil, tu vas faire ton deuxième rappel. Et là, deux possibilités se présentent à toi. La première, tu restitues parfaitement l'information, alors nickel, tu passes au troisième rappel qui a lieu le lendemain. La seconde, tu la restitues soit partiellement, soit tu as du mal, soit tu ne t'en souviens pas du tout. Alors là, ça prouve quelque chose. Ça prouve que tu n'as pas assez compris l'information en question. Donc tu vas devoir la réapprendre complètement, puis repartir sur un cycle à nouveau. Donc tu vas devoir à nouveau faire un rappel le soir avant de te coucher pour retester ta mémoire le lendemain. Et une fois que ce sera bon, tu pourras passer au troisième rappel qui a lieu encore une fois 24 heures après. À chaque fois, tout ça va te prendre maximum 5 minutes de ton temps. 5 minutes, c'est rien. 5 minutes, ça peut presque paraître comme étant insignifiant. Pourtant, ces 5 petites minutes-là vont faire la différence dans ton quotidien. Ce sont ces 5 petites minutes-là que tu vas t'accorder, que tu vas accorder à ton cerveau, que tu vas accorder à ta mémoire, qui vont te permettre de te distinguer des autres personnes, qui vont te permettre de booster ta mémoire et tes autres compétences par réaction. C'est ça, c'est le terme que je cherchais, par réaction. Après, qu'en est-il des rappels suivants ? Alors là, je ne vais pas te détailler précisément quand tu vas devoir les faire, car ce serait beaucoup trop long, beaucoup de facteurs sont à prendre en considération. Mais grosso modo, si le deuxième rappel a été compliqué à mettre en place, réellement, fais des rappels toutes les 24 heures pendant au moins 5 à 7 jours. Par contre, à l'inverse, si le deuxième rappel a été, lui, efficace, là, tu peux se passer d'entrée de jeu après ton troisième rappel à 7 jours plus tard. Et en fait, tu vois, ce procédé, il peut paraître un peu nouveau potentiellement pour toi qui n'a pas conscience de ça, qui n'a pas connaissance de ça, mais pourtant, je ne sais pas si tu as déjà cherché à apprendre une langue sur Internet, notamment par des applications sur téléphone comme Mozalingua, comme Duolingo ou encore comme Memrise, mais ces applications-là utilisent ce même système de rappel-là. Plus tu vas retenir facilement un mot de vocabulaire étranger à ta langue maternelle, plus cette information-là sera moins, comment dire, récurrente dans l'application. À l'inverse, plus tu auras du mal, plus tu vas devoir la réviser tous les jours. Ça fonctionne à nouveau sur cette même courbe de l'oubli de Ebbinghaus. Après, la question que tu te poses maintenant, après avoir compris tout ça, c'est comment utiliser ce système des rappels espacés pour retenir plusieurs connaissances, pour retenir plusieurs outils, plusieurs acronymes, plusieurs numéros de téléphone, plusieurs contenus clés dans des livres ou encore plusieurs plans de formation et de prise de parole en public. En effet, retenir 2-3 informations, ça semble assez facile avec les rappels espacés, mais comment faire pour retenir 100, 200, 300, voire plus d'informations ? Et d'ailleurs, est-ce possible avec cet outil-là ? Alors oui, déjà, c'est tout à fait possible, je te rassure. Et après, pour la question du comment, le plus simple, après en avoir testé plusieurs de mon côté, la plus simple des solutions est la mise en place de flashcards. Alors, une flashcard, c'est quoi ? Il s'agit tout simplement d'une carte, comme une carte de jeu, comme une carte de jeu de poker par exemple, qui est vierge par contre, qui n'a pas de symbole, qui n'a pas de couleur, et sur laquelle tu vas écrire d'un côté une question, donc la question qui va te permettre de stimuler ta mémoire, et de l'autre côté, ta mémoire. Ta réponse, pardon, je confonds un peu les mots. Donc ta réponse, d'un côté la question, de l'autre la réponse. Et donc tu vas piocher chaque jour tes cartes, tu vas lire ta question à voix haute, tu vas répondre à la question à voix haute également pour stimuler encore une fois ta mémoire auditive, puis tu vas retourner la carte pour valider si oui ou non tu as eu la bonne réponse. Et là, tu as deux versions pour mettre en place ce système de flashcards. Soit la version papier, tu as même des kits spéciaux sur internet avec des espaceurs faits justement pour espacer tes révisions, ou soit la version que je préfère moi, la version dématérialisée, la version numérique sur téléphone portable, sur tablette, sur ordinateur, qui prend vie, en tout cas pour moi, via une super application qui s'appelle Anki, donc Anki, pardon, A-N-K-I. Personnellement, encore une fois, je te recommande vivement d'opter pour la version dématérialisée, et ce pour trois raisons. La première, le gain de place. En effet, certes, quand on a 20 cartes à côté de soi, c'est cool, ça prend pas de place, c'est même joli, parce qu'on peut faire des dessins dessus, on peut réellement s'imprégner des cartes, et en plus, en écrivant sur les cartes, on sollicite une autre mémoire qui est la mémoire kinesthésique. Mais par contre, quand on a 100, 200, 300 cartes, clairement, ça devient ingérable. Et je ne sais pas si, comme moi, tu as un enfant de moins de 2 ans qui est turbulent, mais quand on a des documents comme ça, droite à gauche, mon fils, moi, aime bien taper dedans, aime bien les déchirer, aime bien les maltraiter, aime bien les mettre à la poubelle. Donc, forcément, pour réviser, ça a quand même quelques limites, notamment le fait d'avoir un enfant, encore une fois. Donc, premier avantage de la version dématérialisée, c'est le fait que tu as un gain de place vraiment significatif grâce à cette dernière. Ensuite, deuxième avantage, c'est la facilité de transport. Autrement dit, tu peux réviser tes cartes en tout temps et en tout lieu. Et surtout, tu peux réviser tes cartes-là sur tes temps morts. Ça, c'est super important. Souvent, on perd notre temps à attendre à un péage. On perd notre temps à attendre dans une file d'attente. On perd notre temps chez le médecin. Tout ça, c'est du temps qui n'est pas optimisé. Tout ça, c'est du temps qui défile. Et ne va pas me dire que ce sont les revues chez le médecin qui vont t'occuper des revues qui datent de 15 ans en arrière, qui ne servent à rien, qui ne t'apportent rien, qui sont uniquement des revues people. Ça, on s'en fiche, ça n'est pas intéressant pour toi. Par contre, imaginons, le médecin est en retard, comme d'habitude, soit dit en passant. Désolé si tu es un médecin que tu m'écoutes, mais c'est la vérité, tu le sais très bien. Donc, le médecin est en retard, tu dégaines ton téléphone et tu fais tes révisions espacées en quelques secondes. Ton temps n'est pas perdu, tu optimises ta mémoire à chaque temps mort dans ta journée. Et ça, crois-moi, encore une fois, ça va faire la différence dans ton quotidien par rapport aux autres personnes. Pardon. Et dernier élément également qui porte l'avantage par rapport à la version dématérialisée, ce sont la gestion des espacements de révision qui sont automatiquement gérés par l'application. En fait, l'application, en tout cas c'est le cas pour Anki, donc A-N-K-I, que tu as notamment sur l'Apple Store et sur le Samsung Store, le Play Store, pardon, ça s'appelle. Personnellement, je suis un pro Apple, donc je connais très peu les autres écosystèmes. Donc, Anki notamment permet de gérer efficacement l'espacement entre les révisions. Autrement dit, si tu échoues à la révision d'une carte, elle sera placée rapidement lors de ta prochaine révision. Si tu la maîtrises parfaitement, tu ne la reverras que d'ici une semaine, 10 jours, voire même un mois. Plus tu vas maîtriser une carte, moins tu auras à la réviser. Et c'est normal. Et ça, encore une fois, c'est un avantage considérable de cette application-là sur les cartes papier, sur les cartes physiques. Donc voilà, voilà pour le premier outil que je voulais te présenter. Voilà pour le premier outil que tu viens de ranger à l'instant dans ta boîte à mémoire à outils. Sachant, à nouveau, je te le rappelle, je sais, ça fait la 4e fois, je crois, que tu as plus de détails et plus d'informations sur ce sujet, sur cet outil-là dans le guide que je t'ai préparé. Maintenant, deuxième outil. Un outil que tu vas ajouter à nouveau à ta boîte à outils, un outil pour consolider ta mémoire. Et là, je vais te parler d'un outil que j'affectionne particulièrement, qui sont les MapMind. Alors, les MapMind, également connus sous le nom de carte mentale ou de carte heuristique, qu'est-ce que c'est ? Je pense que tu connais potentiellement déjà cet outil, mais si tu l'as pas en tête, si tu ne connais pas ce terme-là, je vais quand même, dans tous les cas, t'expliquer ce que c'est rapidement. Par contre, encore une fois, je te préviens, c'est un outil qui est extrêmement visuel, qui est même 100% visuel, donc l'expliquer à l'oral, sans support, n'est pas chose facile. Donc pardonne-moi si mes explications sont un peu floues, un peu compliquées. Alors, une MapMind, c'est quoi ? C'est tout simplement un graphique qui va te permettre de représenter des idées, des tâches, des mots, des concepts, des théories, des éléments qui sont liés entre eux autour d'un seul et unique sujet central. Franchement, encore une fois, le plus simple, c'est que tu prennes mon petit guide, tu as un visuel dessus, c'est beaucoup plus simple encore une fois. Bref, c'est compliqué d'expliquer ça à l'oral. L'avantage du MapMind est lequel ? C'est qu'il te permet d'avoir une vision globale d'un sujet, et surtout une vision non linéaire d'un sujet. Qu'est-ce que j'entends par linéaire ? En fait, contrairement à une prise de notes classique où les idées sont hiérarchisées et ne peuvent se lire que du bas vers le haut, dans un MapMind, on peut lire les informations dans tous les sens, ce qui permet plusieurs choses. Ce qui permet notamment de croiser les informations entre elles, de faire des liens, de trouver des oppositions, de trouver des corrélations, de trouver des oppositions à nouveau, et j'en passe. Et ça, chose très importante pour commencer, ça correspond parfaitement au fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau, non, il ne fonctionne pas de façon linéaire, il ne fonctionne pas comme étant un plan avec thèse, antithèse, synthèse. Notre cerveau, il part dans tous les sens. Et l'exemple le plus concret pour s'en rendre compte, c'est le brainstorming. Quand on fait un brainstorming, les idées fusent, elles partent dans tous les sens, c'est grâce à ça qu'on trouve des solutions. Ce n'est pas en établissant point 1, on va potentiellement réfléchir à ça, point 2, on va faire ça, point 3, on va faire ça. Non, ça ne fonctionne pas. C'est un élément qu'on a appris depuis l'école à fonctionner par plan, mais encore une fois, ça ne fonctionne pas. Notre cerveau n'est pas linéaire, encore une fois, je le répète, je le martèle, il n'est pas linéaire. Donc, voici pour le premier avantage du MapMind, et ensuite, deuxième avantage, c'est le fait que ça offre une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus globale, beaucoup plus complète d'un sujet. Donc, voici ce qu'est un MapMind. Maintenant, voyons comment l'utiliser pour booster sa mémoire et pour booster sa capacité à retenir des informations, car c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. On va prendre l'exemple du suivi de formation. Typiquement, tu suis une de mes formations, par exemple PSO. Pendant que tu suis la formation, tu vas prendre des notes. C'est logique. D'ailleurs, petit aparté rapide, la prise de notes est un sujet qui est vraiment lié à la mémoire, qui est central dans la mémoire, et prendre des notes, ça s'apprend. C'est comme pour tout, ça s'apprend. Encore une fois, on ne l'apprend pas à l'école. Pour prendre des notes, il ne suffit pas de noter ce que dit son interlocuteur. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut réfléchir, faire des associations. Il faut faire des résumés, des schémas et j'en passe. Tout le monde prend des notes aujourd'hui, mais peu de personnes savent réellement prendre des notes efficaces. C'est pourquoi, fin du mois, je digresse un peu, mais c'est important, je te parlerai de ce que j'appelle la prise de notes augmentée. Donc, on revient là où nous en étions. Tu prends des notes durant ma formation. Après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas relire tes notes après la formation terminé. Et là, tu vas reprendre tes notes sous forme de MapMind. Et là, c'est très intéressant. Tu vas prendre une grande feuille de papier et tu vas dessiner à la main la schématisation avec des couleurs, avec des dessins et des symboles, la schématisation de ta prise de notes. Grâce à ça, tu vas te constituer une synthèse visuelle et globale du contenu de la formation que tu as suivie. Ce qui va te permettre, d'une part, d'augmenter ta mise en mémoire de ce que tu as appris, car tu auras fait ton premier appel, rappelle-toi de la courbe de Ebbinghaus. Et, deuxième élément, chose très importante, tu vas stimuler d'autres zones de mémorisation de ton cerveau, notamment les zones visuelles et kinesthésiques, alors que la formation, elle, en tant que telle, bien souvent ne stimule que la zone auditive. Donc tu vas jouer sur trois canaux de mémorisation grâce à ça, donc le canal visuel, le canal auditif et kinesthésique, au lieu d'un seul canal de mémorisation. Et ça a toute son importance. Ça fait toute la différence. Notamment, on le sait très bien grâce, encore une fois, aux neurosciences, qu'on a tous un profil dominant en termes de mémorisation et de communication. Et là, je fais notamment écho au VACOG. VACOG pour visuel, auditif, kinesthésique, VACOG, olfactif et gustatif. Et plus on va apprendre et mémoriser des éléments sur ces cinq canaux-là, sachant que l'olfactif et le gustatif sont compliqués à mettre en application, peu importe, donc plus on va apprendre et mémoriser sur ces cinq canaux-là, plus l'information sera ancrée en nous de façon importante. Plus elle sera solide dans notre esprit et dans notre cerveau. Donc encore une fois, faire une MapMind présente un avantage certain par rapport à une prise de notes classique. En tout cas, elle vient parfaitement compléter une prise de notes classique. Et ensuite, deuxième avantage du MapMind avant de passer à la suite, c'est qu'il va te servir juste après d'outils de révision rapide pour te remémorer très rapidement et à nouveau de façon globale le contenu de la formation que tu as suivie, ou de la réunion, ou autre, peu importe, la formation n'est qu'un exemple. Et grâce à ça, tu pourras l'ancrer plus facilement dans ton esprit. Alors, dans le guide que je te propose de télécharger, je te donnerai bien évidemment un exercice à faire, ainsi que des illustrations de MapMind. L'exercice, il est très simple, il consiste à suivre une vidéo YouTube que j'ai sélectionnée, à prendre des notes suite au visionnage de cette vidéo-là, ou plutôt durant le visionnage de la vidéo, puis à tout retranscrire sous forme de MapMind. Et je te rassure, pour faire des cartes mentales, pour faire des cartes heuristiques, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Sinon, crois-moi, je n'en ferai strictement jamais. Allez, maintenant, on en arrive plutôt à la fin de ce podcast. On va passer au troisième et dernier outil, dernier outil que tu vas à nouveau pouvoir ajouter dans ta boîte à outils de la mémoire. Cet outil, c'est le voyage mental. Avant de continuer, ça fait une demi-heure que j'enregistre, je bois un coup rapidement. Voilà, désolé, j'avais la gorge un peu sèche. Alors, si tu ne connais pas cet outil-là, tiens-toi bien, sois bien assis, car tu t'apprêtes à découvrir l'un des outils de mémorisation les plus puissants qu'il puisse exister. Cet outil, il vient d'où ? Il vient directement de la Grèce antique, et il a été utilisé notamment par les grands orateurs grecs, comme Platon, comme Sénèque, comme d'autres, qui ne me viennent plus à l'esprit, désolé, pour convaincre leur auditoire lors de leur prise de parole devant toute une assemblée. Là, dans ce podcast, je vais te présenter la version de base du voyage mental. Mais rien qu'avec cette version-là, tu vas pouvoir retenir des listes de 25 éléments et plus sans aucune difficulté et surtout en quelques petites minutes. Alors que la majeure partie des personnes ne retiennent que 7 éléments grand maximum. Et ça, c'est physiologiquement obligatoire car les éléments en question sont stockés dans la mémoire de travail. La mémoire de travail étant, comment dire, limitée à 7 éléments grand maximum. Mais grâce au voyage mental, on va solliciter une autre mémoire bien plus puissante. Je t'en parle juste après. Et donc ça, le fait de mémoriser jusqu'à 25, 30, 50 éléments à la suite, transposés au monde professionnel, ça va te permettre de connaître par exemple les étapes d'un processus complet, en qualité, complet et détaillé. Pareil pour la méthode, pareil pour la logistique. Ça va te permettre de retenir parfaitement un discours commercial, de l'avoir ancré en tête, sans suivre tes notes. De retenir également une politique commerciale. De retenir tout le plan d'une intervention orale que tu aurais à faire. Et tout ça, sans avoir besoin de notes. Imagine l'effet que tu vas faire devant une assemblée en tenant un discours qui dure 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, sans prendre de notes. Sans visuel, sans slide, sans rien. Imagine l'effet que tu vas faire face à tes collègues. Tu vas littéralement les impressionner et ça, encore une fois, tu peux le faire grâce au palais mental. Donc ça, c'est uniquement pour l'aspect professionnel, mais ça s'étend également au niveau personnel. Au niveau personnel, là, c'est un peu plus ludique. Ça te permettrait, par exemple, de bluffer tous tes amis sur des jeux de mémoire, de les impressionner en récitant les 25 premiers films de James Bond à la suite, ou de les surprendre en leur récitant une liste de 25 mots que tu leur as demandé de te mettre au défi de réciter. Et le plus fou dans tout ça, déjà, tu pourras gagner un peu d'argent potentiellement grâce à tes paris, n'hésite pas, teste-le, tu verras, c'est bluffant. Mais donc, le plus fou dans tout ça, c'est que ça ne veut te demander aucun effort surhumain. C'est très simple à mettre en place. Et c'est pourquoi, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi en école, on n'enseigne pas ça aux étudiants. Ça devrait être la base du système scolaire, consacrer une année complète à savoir comment apprendre, à savoir comment mémoriser. Bref, encore une fois, je m'égare, mais bon, c'est le cœur qui parle. Alors, dans le guide, revenons à ce fameux guide dont je te martèle un peu les oreilles. Dans ce guide, je te présenterai à nouveau un petit exercice à faire, à réaliser, où je vais te demander de retenir une liste de 15 mots. Et tu verras qu'en à peine 5 minutes, tu vas les mémoriser parfaitement et tu vas t'en souvenir durant des semaines et des semaines sans même faire de rappel de mémoire pour te dire à quel point cet outil est extrêmement puissant. Alors venons-en maintenant justement à cet outil. Voyons comment il fonctionne. Voyons ce que c'est. Voyons comment il se déroule. Cet outil se base donc à 100% sur une mémoire très puissante que nous avons dans notre esprit, qui est notre mémoire des lieux. Pour preuve, je ne sais pas où tu écoutes ce podcast, je ne sais pas où tu m'écoutes, mais si tu m'écoutes en dehors de chez toi, je suis sûr que tu peux parfaitement fermer les yeux dès maintenant et visualiser ta maison, chaque pièce, chaque objet, chaque décoration, chaque meuble, chaque agencement, chaque élément qui traîne, peu importe, tu peux tout visualiser les yeux fermés. Tu peux littéralement t'y déplacer comme si tu y étais, mais mentalement. Tu peux le faire à distance sans y être et ça ne te demande strictement aucun effort. Et si tu es chez toi, si tu m'écoutes depuis chez toi, depuis ton canapé, depuis ton bain, peu importe, depuis ton lit, je sais pas, quand tu fais la vaisselle, peu importe, tu peux faire la même chose avec ton lieu de travail, avec la maison de tes parents, avec le trajet que tu prends chaque jour pour aller au sport, par exemple. Bref, tout ça pour te dire que la mémoire des lieux est la mémoire la plus solide qu'il existe dans notre esprit. Et c'est ça, c'est cette capacité-là de déplacement facilement dans l'un de ces lieux-là que tu connais parfaitement, que l'on va exploiter ensemble au travers du voyage mental. Je ne sais pas si tu peux le faire dès maintenant, mais je te propose dès à présent de faire l'exercice suivant. Ferme les yeux pour commencer. Tu vas ensuite visualiser ta maison, ou un autre lieu, peu importe, que tu connais très bien. Et dans ce lieu, tu vas établir 25 étapes. Alors, une étape, c'est quoi ? 25, c'est un peu beaucoup. Commençons par 15. 15 étapes. Alors, une étape, c'est quoi ? C'est un élément clé. Tu vois, moi, par exemple, je vais prendre mon cas personnel. Quand je rentre chez moi, je commence par la cour. La cour est ma deuxième étape. Pourquoi ? Car avant, j'ai ma première étape qui est le portail de ma cour que je vais ouvrir. Après ça, je fais face à la porte de ma maison. Là, c'est ma troisième étape. J'ouvre la porte. À gauche, j'ai mon porte-manteau qui est fixé au mur. Ça, c'est mon étape numéro 4. Et juste à côté, j'ai mon canapé. Étape numéro 5, et j'en passe. Toi, tu fais pareil jusqu'à identifier 15 étapes. Si jamais tu as besoin, note-les sur une feuille, ça va t'aider en un premier temps. Mais bon, tu verras qu'à terme, ça ne servira plus à rien de les noter, tellement cette mémoire-là est très puissante. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu vas créer ce qu'on appelle un crochet, pour accrocher des images mentales que tu veux retenir. Alors, dit comme ça, c'est extrêmement abstrait comme concept, donc je vais t'illustrer ça par mon cas personnel. Alors, je fais face à mon portail, et là j'imagine planter dessus, en plein sur un pic de portail, une grosse pomme bien rouge, bien brillante, bien dégoulinante de jus. Mon crochet, c'est donc ici le pic sur mon portail, et mon image mentale, c'est la pomme rouge que je viens de te décrire. Ensuite, j'ouvre le portail, là je mets mon premier pied dans la cour, et d'un coup, je me retourne à droite, et je vois quoi ? Je vois un énorme criquet vert fluo qui m'attaque. Quand je dis énorme, il fait trois fois ma taille. Il me regarde, il me fonce dessus. Du coup, moi, je cours, je me précipite vers ma porte d'entrée, et là, hop, sur la porte se dessine un élément inhabituel, plutôt se trouve un élément inhabituel, un dessin de mini-éléphant. Qu'est-ce qu'il fait là ? Je ne sais pas, je ne réfléchis pas, j'enfonce la porte, je la referme, je la boucle, et là, je respire déjà pour commencer, un peu, comment dire, effrayé par l'élément qui s'est produit précédemment, le criquet à nouveau. Je m'apprête à poser ma veste, et là, sous le choc, mais qu'est-ce que je vois sur mon porte-manteau ? Je vois une biche accrochée par ses pattes qui se balance de cintre en cintre. Un truc complètement improbable. Du coup, je suis surpris. Je dirige mon regard vers le canapé pour essayer de croiser celui de ma compagne qui doit s'y trouver pour me rassurer. Et là, qu'est-ce que je vois à la place de ma compagne ? Une citrouille. Une citrouille avec des bras et des jambes qui sautent sur le canapé. Etc, etc, etc. Alors, je vais m'arrêter là parce que je pense que tu dois me prendre un peu pour un fou. Qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de faire un voyage mental. C'est ça, un voyage mental. Je me suis déplacé mentalement d'étape clé en étape clé dans ma maison. Et à chaque étape clé, j'ai accroché une image mentale à mes crochets. Image mentale que je veux, bien évidemment, mémoriser. Et à partir de ces images-là, je me suis créé une histoire complètement loufoque, complètement stupide. Mais cette histoire stupide et loufoque m'a permis de faire quelque chose en quelques secondes. C'est le fait de me mémoriser les 5 premiers films de Walt Disney sortis au cinéma en commençant par le plus ancien. Alors, là je sens que je t'ai perdu et c'est normal, je m'explique à nouveau. Reprenons le chemin que j'ai parcouru. Sur mon portail, il y avait une grosse pomme rouge, qui dit pomme dit Blanche-Neige. Ça c'est l'image que j'ai choisie pour me souvenir, de Blanche-Neige et les 7 nains. Dans ma cour, un criquet géant. Le criquet, c'est pour Jiminy Cricket, de Pinocchio. Ensuite, je me précipite vers ma porte où se trouve un dessin d'éléphant, l'éléphant pour Dumbo, ça tu l'auras compris. Ensuite, le porte-manteau, on voit une biche qui se balance de cintre en cintre. Là, c'est qui ? C'est Bambi, tout simplement. Et enfin, la citrouille sur le canapé, c'est pour Cendrillon. Je ne sais pas si tu peux te rendre compte comme ça uniquement en m'écoutant, si tu peux te rendre compte à quel point cet outil est surpuissant, à quel point c'est une bombe en matière d'outils, à quel point il va changer ton quotidien. Le mieux, encore une fois, c'est que tu fasses l'outil que je t'ai réservé dans le petit guide que je t'ai préparé. Fais réellement cette mise en application, fais cet exercice-là, exerce-toi à le faire et tu verras à quel point il est extrêmement puissant. Tu verras à quel point il va te permettre, encore une fois, de faire la différence de ta vie personnelle comme professionnelle. Imagine-toi tout ce que tu vas pouvoir faire et accomplir avec la capacité de mémoriser 25 informations et plus en une poignée de minutes. Typiquement, tu as un concours à passer pour une promotion, facile, tranquille, pas de soucis. Tu suis une formation diplômante pour un examen, à nouveau, finger in the nose. Tu as une liste de procédures à mémoriser pour un contrôle au niveau, du médecin du travail, au niveau de l'inspecteur du travail. Pas de souci, tu as un plan à mémoriser, mais c'est tellement simple que ça en devient risible pour toi. Tout sera beaucoup plus facile pour toi au quotidien. Imagine-toi l'effet que va produire ta capacité à animer une réunion, une intervention en comité de direction ou une formation sans notes, sans support, sans rien. Personne ne fait ça aujourd'hui. Personne n'en est capable. Regarde une conférence TEDx. Vois à quel point ces gens ont du charisme dans leur prise de parole. Vois à quel point ces gens parlent pendant 15-20 minutes sans notes, sans support, sans rien, sans bafouiller. À quel point ils sont impressionnants. Moi, ça m'a toujours bluffé. Et ces gens-là utilisent le voyage mental pour se concentrer. Utilisent le voyage mental pour mémoriser tout le plan de leur intervention. Bref, grâce à ça, tu vas réellement pouvoir booster tes compétences au quotidien. Tu vas pouvoir réellement te démarquer des autres. Et encore une fois, je t'ai présenté uniquement les bases de cet outil. On peut aller beaucoup plus loin et encore vraiment plus loin quand on le maîtrise parfaitement. On peut notamment, chose très importante, chose très utile au quotidien, se détacher de l'utilisation linéaire de cet outil. En effet, dans le voyage que je t'ai présenté, on peut aller que de la première étape à la dernière étape. On ne peut pas switcher entre les étapes pour se souvenir d'un élément précis que l'on souhaite se remémorer. Eh bien ça, c'est parfaitement possible et ce n'est pas compliqué à mettre en place, encore une fois, avec la version augmentée du voyage mental. Et crois-moi, avec cet outil-là, les possibilités sont infinies. Et c'est notamment grâce à lui qu'un champion du monde, comme Dominic O'Brien, est parvenu à retenir, tiens-toi bien, j'en rigole tellement c'est impressionnant, 54 paquets de 52 cartes en ne les regardant qu'une seule fois. Soit une suite de 2808 cartes à la suite. Il a pu retenir tout ça grâce au palais mental dans la version optimisée. Alors, je vais pas te mentir, pour atteindre ce niveau-là, il faut du boulot, mais c'est possible pour n'importe qui sur Terre, à force de travailler, bien évidemment. Mais pour des personnes comme toi et moi, ça ne servirait à rien du tout. Je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te dire des bêtises. Mais par contre, ça, je te l'ai déjà dit de mémoire dans le podcast précédent, le fait de connaître ces mécanismes-là de mémorisation va tout changer pour toi au quotidien. J'arrête pas de te le dire durant ce podcast, mais c'est la vérité, je l'ai vécu moi-même, et des personnes que j'ai accompagnées l'ont vécu également elles-mêmes. Une fois que tu auras vécu tout ça, une fois que tu auras testé tous ces outils, une fois que tu auras complété ta première boîte à outils, commence par utiliser ça dans ta vie personnelle pour bluffer tes amis. Commence à te l'approprier tranquillement au quotidien. Commence à en faire réellement une seconde nature. Utilise ta boîte à outils de plus en plus régulièrement et vois à quel point ça va te changer la vie au quotidien. Voilà, on arrive maintenant à la fin de ce podcast qui m'a l'air assez long, mine de rien. À nouveau, pour résumer, les trois outils que je t'ai présentés ne sont que quelques outils parmi des dizaines d'autres qui constituent la boîte à outils des champions de la mémoire. Ces outils vont te permettre de commencer à te constituer ta propre boîte à outils de ton côté. Mais il sera nécessaire par la suite, tu l'as compris, je te l'ai déjà dit, que tu ajoutes d'autres outils si tu veux réellement aller plus loin, si tu veux dépasser les capacités de la majeure partie des personnes. Ensuite, autre élément que je dois te dire avant de partir, avant de te laisser plutôt, parce que je ne pars pas à moi réellement, c'est toi qui me quittes en quelque sorte. Donc, autre élément que j'ai à te donner également avant de te laisser, c'est le fait que ces trois outils, effectivement, vont te permettre d'aller beaucoup plus loin. Mais ils seront encore plus efficaces si tu apprends à faire la différence entre les informations qui sont utiles et les informations qui sont inutiles. En effet, comme je te l'ai dit dans le podcast précédent, notre société actuelle est une société de la surinformation. Attends, je la refais parce que j'ai un peu bafouillé. Est une société de la surinformation. Toutes les informations, tu le sais, ne se valent pas. Pourtant, toutes les informations sont stockées au même endroit de notre cerveau, à savoir la mémoire à court terme. Donc, si tu ne sais pas faire ce travail de distinction entre les informations importantes et les informations peu importantes, tu vas limiter ta capacité d'apprentissage. Et ça, c'est pour le premier effet négatif. Deuxième effet négatif, encore plus pernicieux en quelque sorte, c'est que tu risques de t'attarder et de chercher à obtenir des informations qui vont être inutiles et qui vont te polluer l'esprit. Alors, comment faire pour distinguer justement un élément important d'un élément inutile? C'est simple, pour ça il existe des questions à se poser, précisément il en existe 7, et ça, je t'en parlerai à la toute fin de ce mois de septembre. Maintenant, je vais te laisser, ou plutôt tu vas me laisser encore une fois. N'oublie pas, la semaine prochaine, podcast FAQ, donc pose-moi tes questions via le lien présent en formulaire, et ensuite, lundi suivant, donc pas celui de la FAQ mais celui d'après, je te parlerai d'un élément très important qui est le trigger de la mémoire. Alors, sois au rendez-vous, cet élément, encore une fois, fera toute la différence pour toi. Maintenant, je te souhaite une très belle journée, pleine de succès, pleine de surperformance, et je te dis à lundi prochain, à 7h, dans tes oreilles ou par email. Ciao !